Sud Radio, on décrypte le monde.
Joe Biden est depuis mercredi le 46e président des États-Unis. On va donc parler de ses trois premiers jours à la Maison-Blanche en compagnie d'Olivier Piton, avocat à Washington et ancien député suppléant des Français d'Amérique du Nord. Olivier Piton, bonjour, ou plutôt good morning.
Bonjour Philippe.
Alors, l'investiture s'est passée dans le calme. On a l'impression que Washington, et vous y êtes, était un véritable Fort Knox, un camp retranché en voyant les images de la garde nationale partout.
Oui, vous avez raison. On a été, si vous voulez, dans l'inverse de la présence policière du 6 janvier, c'est-à-dire que là, les autorités avaient décidé, je pense qu'elles ont eu raison, de ne pas prendre de risque d'affrontement entre les deux camps ou entre un camp et la police, et donc les conditions de sécurité ont fait qu'on ne pouvait pas du tout circuler, mais vraiment absolument pas, pendant quasiment trois jours. Et là, c'est en train de s'arranger un petit peu, mais effectivement, il paraît, selon la légende, qu'il y avait plus de militaires à Washington pour l'investiture de Joe Biden qu'en Afghanistan.
Ah oui, effectivement. Alors, lors de l'investiture, Joe Biden est allé au cimetière d'Arlington. C'est en Virginie, mais c'est juste à côté de Washington. C'est une première. Est-ce que c'était pour faire un début d'union nationale ?
Alors, ce qui est toujours très très amusant comme symbole, c'est que le cimetière d'Arlington, en fait, est l'ancienne plantation, l'ancienne propriété du général Lee, du général sudiste, qui après la défaite avait été récupéré par les nordistes, qui avaient enterré leur premier mort en guise d'humiliation. Donc, en fait, ce symbole, il est à double tranchant. C'est peut-être effectivement un symbole d'union nationale, mais c'est aussi le sentiment du camp. D'un camp qui a gagné sur l'autre. Donc on va voir un petit peu comment les choses vont se passer dans les semaines qui viennent, mais une chose est très claire, ou plutôt deux choses sont très claires. La première, c'est que la réconciliation sera extrêmement difficile aux États-Unis, puisque les deux camps se haïssent, ne se parlent plus et s'accusent mutuellement d'être des censeurs. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas du tout réglé le problème, les causes du Trumpisme qui a amené Donald Trump au pouvoir en 2016. Les causes sont toujours là et donc rien n'est réglé.
Alors justement, pour son premier jour à la Maison-Blanche, il a signé 17 décrets, notamment sur l'environnement avec le retour aux accords de Paris sur le climat, et il projette même d'arrêter la construction d'un oléoduc Keystone entre les USA et le Canada, et il va restaurer les réglementations en matière environnementale supprimées sous l'ère Trump. C'est le premier président écologiste aux États-Unis.
Alors ça faisait partie de son programme, donc il n'y a pas vraiment de surprise sur le retour des accords de Paris. C'est d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, le deuxième ou le troisième décret présidentiel qu'il est signé en public. Ça c'était dans son programme. Le Keystone oléoduc entre l'Alberta et le Nebraska était un oléoduc qui posait problème parce que, si vous vous souvenez, c'était le fameux oléoduc qui passait entre les terres amérindiennes et qui avait soulevé énormément de polémiques à l'époque. Donc là, il tente effectivement d'apaiser un petit peu les choses. Quant aux mesures environnementales, il faut savoir que les États-Unis, même en sortant des accords de Paris, ne sont jamais sortis du cadre de la lutte contre le réchauffement climatique, à tout le moins à l'échelon local, puisque les communes américaines, des comtés américains, des États américains, en particulier à l'Ouest, ont toujours essayé d'améliorer les réglementations en vigueur. Donc les États-Unis n'ont jamais été un pays ultra pollueur. Simplement, ça ne se passait pas au niveau fédéral, mais ça se passait au niveau local.
Autre changement, la politique migratoire avec la régularisation des clandestins et la fin de la construction du mur avec le Mexique.
Oui, là aussi, alors là on est dans la volonté de faire l'inverse de ce qu'a fait Donald Trump. C'est clairement affiché. Et puis Joe Biden donne des gages aussi à sa gauche radicale. Donc effectivement, fin de la construction du mur, ça c'est contre Donald Trump. Et régularisation ou probable régularisation des personnes clandestines présentes sur le territoire américain, en particulier ce qu'on appelle les Dreamers, c'est-à-dire les jeunes qui sont aux États-Unis depuis de nombreuses années. Ça va effectivement provoquer un vrai débat aux États-Unis, puisque là, en revanche, il va falloir passer par le Congrès, mais les démocrates ayant la majorité au Congrès, ils vont être capables de passer cette loi. En revanche, ça ne va pas clore le débat qui est extrêmement fort aux États-Unis et extrêmement clivant, comme vous pouvez l'imaginer.
Et pour conclure, on va parler politique étrangère. Donald Trump avait transféré l'ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem. Pas de changement dans ce domaine. Est-ce que la politique au Proche et au Moyen-Orient va changer ?
Alors, il y a pas mal de domaines, c'est ça qui est intéressant, où il y aura un continuum entre la politique de Donald Trump et la politique de Joe Biden. Vous avez parlé effectivement du maintien de l'ambassade américaine à Jérusalem. Il y a également la politique vis-à-vis de la Chine, et on a vu d'ailleurs les premières passes d'armes entre l'administration Biden et la Chine, en particulier l'administration Biden a refusé, a condamné la fermeture de comptes d'anciens Trumpistes par les autorités chinoises. Donc, sur la politique étrangère, on va avoir sans doute des surprises, et on va avoir probablement un continuum à vérifier, un continuum entre la politique de Donald Trump et la politique de Joe Biden.
Merci beaucoup Olivier Piton, et on suivra l'évolution de la politique américaine en votre compagnie avec un immense plaisir. Je rappelle que vous êtes avocat à Washington et ancien député suppléant des Français de l'étranger, et comme là-bas il est 1h21 du matin, on vous dit good night. Merci à vous.
Bonne nuit, merci, au revoir.
Merci.